je suis content d'être parmi vous. Alors, deux petites choses. Premièrement, donc, il y a deux parties. La première partie, c'est un peu l'histoire de la réforme, parce que je me suis aperçu que les chrétiens avaient très peu de connaissances de ce qui s'est passé en France et le pourquoi des souffrances, qu'on verra tout ce qu'ils ont subi pour leur foi. Ça, c'est la première chose. Donc, on fera deux parties. On fera une petite pause entre les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la première partie, comme à la fin de la deuxième partie. Je pense que ceux qui sont ici auront du mal à bien voir. Peut-être il vaut mieux que vous alliez... Non, ça va, je ne vous gêne pas. Vous êtes sûr? Parce que je suis quand même... Il y a 30 ans, c'était plus... Mais j'ai pris des épaules, un peu de carrure, ce qui fait que je prends plus de place maintenant. Oui, mais bon, je m'aperçois que c'est commun pour tous. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vais bouger, je me connais, et je suis toujours en train de gigoter. Hein. Voilà, donc la première partie qu'on va voir maintenant, c'est donc la partie historique. Donc j'ai appelé ce montage « Aspect de la réforme », parce que pour parler vraiment de la réforme, il me faudra des heures et des heures et des heures, donc on va avoir quelques aspects. Et puis après, donc la deuxième partie, ça sera donc les souffrances qu'ont connues, donc ce qu'on appelle les assemblées du désert. Est-ce qu'on peut éteindre de façon à avoir... Alors donc, oui, je voulais d'abord, merci pour votre invitation. Aldo m'avait demandé si je voulais venir ce matin. J'aurais pu passer la journée avec vous, mais ce matin, j'étais dans mon assemblée quand même à Nanterre. Hein, et ça faisait un moment que je n'avais pas eu l'occasion d'y aller, parce qu'on est un peu actuellement appelé par pas mal d'assemblées à droite à gauche. Et voilà, donc ce matin, je voulais être avec les miens. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas été trop frustrés. Certain que le message de... C'est toi qui as apporté le message, Aldo?
Non, c'est le frère Jean-Pierre.
Alors, c'était parfait. Enfin, c'est bon. Bon, bref, donc, voilà. Je suis vraiment content, et mon épouse aussi, qui est là. Hein. Mon aide-mémoire, parce que quelquefois, j'oublie des choses. De temps en temps, je lui demande son secours. Voilà, donc, je suis vraiment content d'être parmi vous. Parce que, pour moi, ici, je dois le dire, que c'est des souvenirs extraordinaires qu'on a eu dans le passé, et puis donc pastoral avec Aldo et puis Steve Barnes et d'autres. Comment ?
C'est pareil pour vous.
Ouais. Voilà. Et je pensais peut-être que Robert Doucet serait des nôtres cet après-midi, mais je ne sais pas s'il a pu venir. Voilà. Bien. Alors, quand on parle persécution, on pense donc à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe pour les chrétiens qui sont persécutés. Donc là, on a l'index 2017 de ces persécutions. Hein, je pense que vous savez, c'est ou des pays communistes ou des pays musulmans. C'est là où nos bien-aimés sont persécutés. Et actuellement, on pense qu'il y a à peu près 150 millions de chrétiens qui sont vraiment persécutés, quelquefois mis à mort. Hein, donc, voilà. Mais il y a eu aussi en France, même si l'histoire est moins connue, des choses terribles qui se sont passées. Et là aussi, soumis à la fois à l'oppression politique... royale à l'époque, hein, et aussi religieuse. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est donc quelque chose qui soit la mémoire des héros de la foi qui nous ont précédés. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, ils ont été avant nous. Et si aujourd'hui, nous connaissons les évangiles, la Bible et le salut en Jésus-Christ, il faut bien se dire qu'il y a des gens qui, depuis le Seigneur Jésus, hein, ont souffert sous les Romains, ont souffert pas mal dans le moment de l'histoire du christianisme, et ce sont nos héros de la foi hein, en France. Et puis aussi, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui viennent des îles, quelque part aussi par intermédiaire donc de ces gens-là. Et donc il y a eu un combat. Ce combat que ces gens ont fait, c'était pas pour vivre mieux, c'était pas pour avoir plus de choses, c'était pour avoir la liberté de conscience et de penser. Alors, pourquoi c'est pas tellement connu, hein, je sais pas si vous avez fait un peu d'histoire à l'école, la seule chose qu'on connaît, vous en parlez d'ailleurs, c'est l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy, mais vous savez qu'on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme malheureusement les protestants ont été quand même vaincu dans l'affaire. C'est pour ça qu'il y a un silence concernant cette histoire coupable, pour moi coupable. Alors donc, on va voir la première partie, aspect de la réforme en France. Alors, il va y avoir quatre éléments qui vont faire que la réforme aura lieu. Ces quatre éléments sont voulus par Dieu, à un moment précis de l'histoire de la France, mais aussi de l'Europe. Quatre choses vont être concomitantes, vont arriver en même temps, pour que la réforme puisse avoir lieu. La première chose, il faut dire que à ce moment-là, l'Église en place est minée par des crises et des abus. Et il n'y a pas de réforme. Donc il y a une crise morale, politique, dans la chrétienté en Occident à cette époque-là. On est donc après le Moyen-Âge, 1100-1300. Et il va y avoir des choses qui vont faire que les gens ont peur. Les gens ont peur de la mort. Ça, par exemple, c'est ce que vous pouvez voir à Notre-Dame, enfin à Lourdes-Dame, hein, c'est pas la mienne. Hein. Et les gens ont peur de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la peste noire, qui a ravagé l'Europe, et on pense qu'il y a eu à peu près 30 à 50% de la population qui est décédée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30 à 50% de la population européenne est décédée. Donc, la peste devient vraiment le symbole de la mort, et les gens ont peur, et ils savent qu'il va y avoir un jugement dernier, c'est ce que vous voyez là. Donc vous voyez ici un ange d'un côté, l'autre côté Satan, la pesée des hommes, alors ça c'est complètement pas biblique, hein. Ça c'est vraiment, ça vient de l'Égypte en réalité, vous voyez. Et donc les gens ont peur de la mort, surtout que juste avant, il y a eu la guerre de 100 ans, et la guerre de 100 ans a fait à peu près en France 150 000 morts. Donc on peut s'imaginer la peur, mais ça c'est quelque chose de terrible, c'est comme si demain, je sais pas moi, un virus comme Ebola, etc., faisait tuer la moitié des gens en France, mais il y aurait une peur de la mort. Donc quand on a peur de la mort, on se tourne vers Dieu. C'est bien dommage qu'on se tourne vers Dieu que quand ça va mal. Je pense que c'est mieux quand ça va bien, parce qu'on est en pleine forme, intellectuellement, psychiquement, pour pouvoir connaître les choses de Dieu. Mais là il y a donc cette terrible crainte de la mort, qui fait que les gens se tournent un peu vers Dieu. Donc ça, c'est le premier, la première chose. La deuxième chose, il va y avoir un désir de l'Église romaine de bâtir Saint-Pierre de Rome, mais il n'y a pas de sous, il n'y a plus d'argent. Donc on va mettre en place un système qu'on appelle des indulgences. Ce système, c'est que si vous donnez de l'argent, c'est ce qu'on voit ici, voilà, les gens donnent de l'argent, on vous promet un purgatoire plus court, voire même pas de purgatoire du tout. Donc tout est barémé pour un viol, pour un assassinat, tout est barémé. Et en fonction de ce que vous avez fait, eh ben, vous pouvez donner de l'argent pour être...
C'est pas très...
Voilà. Pour être disculpé. C'est épouvantable. Bien sûr, quand on a de l'argent... On peut le faire, mais quand on n'est pas argenté, qu'est-ce qu'on fait ? Ben on reste dans son péché, donc c'est quelque chose de terrible. Et ça va être certainement quelque chose qui va être déclencheur, là aussi, de la réforme. En particulier chez Luther. Luther, quand il va voir ça, et d'autres chrétiens vont dire, mais c'est pas possible qu'on en arrive à ce niveau-là. Et Tetzel, donc celui qui avait la charge de vendre, vous voyez, chacun, vous avez fait ça, ben voilà, c'était le billet, etc., etc. Vous mettez dans la caisse, et vous êtes pardonné. Ce système des indulgences, donc, a été un système pour avoir de l'argent. Et on attribue à celui qui l'a mis en place, donc Tetzel, sous l'autorité du pape Léon X, « Sinon que sonne votre obol, du feu brûlant, l'âme s'envole. » Vous voyez un petit peu, quand même, on en est arrivé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a profondément marqué les esprits de l'époque, et qui a donc être aussi un des faits fondateurs de la réforme. Voilà donc Saint-Pierre de Rome, hein, si vous connaissez peut-être, ben, pratiquement tout de Saint-Pierre de Rome a été construit avec ça. Ce qui fait que quand j'étais à Rome et que j'ai vu Saint-Pierre de Rome, j'étais mal. Parce que je me suis dit, on a trompé les gens, on a leurré les gens, en été on a envoyé les gens en enfer, puisqu'ils croyaient que grâce à ça, ils étaient quittes devant Dieu. C'est honteux, c'est abominable. Alors à l'époque, il y a beaucoup de monastères, mais dans les monastères, il y a un relâchement de la discipline et des mœurs. Il s'y passe des choses épouvantables. Donc les gens sont complètement perdus, ils veulent aller vers Dieu, mais ce qu'on leur propose, ça ne peut pas être vrai. Enfin, on est très très mal, on aspire à quelque chose. Et les réformes ne viennent pas. Et l'Église continue dans son système, comme si de rien n'était, comme si tout allait très bien. Alors le clergé est complètement déconsidéré, les gens achètent leurs charges, pour être responsable d'église, pour être évêque, qu'à l'époque c'était ça, ou cardinal, je ne sais quoi. Et puis le peuple, lui, ben, il a à la fois à se charger aussi bien du monde religieux de l'époque, qui prend des dîmes, mais dans sa poche. Et puis aussi, donc, vous savez, ça va être aussi un peu l'origine de la Révolution française. Donc tout ça, il faut bien comprendre qu'on est dans un climat très très particulier. Et puis il va y avoir des gens qui vont, alors on appelle ça l'humanisme chrétien, des gens qui vont s'intéresser à la Bible. Alors généralement c'est des gens du clergé, des prêtres ou des moines, etc., qui veulent une réforme et qui savent très bien que le bonheur des gens, spirituellement parlant, ne passe que par l'évangile. Et donc ils vont commencer à mettre en place la connaissance de l'évangile au travers de documents, en particulier donc la traduction de l'évangile. Donc le plus connu c'est Erasme. Alors peut-être que vos enfants font le projet Erasmus, hein, peut-être pour... Erasme est donc un homme lettré d'origine hollandaise, et il va aller un peu partout en Europe et va donc donner le goût aux gens de lire l'évangile. Et il va donc, ça va être la première traduction critique du Nouveau Testament. Voilà, il va donc donner au monde, au monde européen, le début, c'est vraiment le début, le tout début, de dire voilà, il y a quelque chose qui existe, qui est merveilleux, qui est fantastique, c'est l'évangile. Et donc c'est un homme qui va faire beaucoup, il y en a d'autres, hein, je ne peux pas tous les citer, je donne les dates en même temps. Un autre qui va avoir aussi un travail important, c'est Michel de l'Hospital. Lui c'est un juriste catholique, et comme ça commence entre catholiques et protestants à mal se passer, il va avoir une charge par Catherine de Médicis, qui va être à l'origine du massacre de Saint-Barthélemy, donc de faire une réconciliation entre les deux visions, monde catholique, monde protestant. Mais à l'époque, le protestantisme, c'est très léger, hein. C'est que quelques personnes, il y a très très peu. Donc le colloque de Poissy, donc c'est pas très loin d'ici, hein, va donc ne pas réussir, mais il a voulu faire connaître, lui aussi, quelque part, la valeur de ce que les protestants proposaient. Michel de l'Hospital. Et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être, Guillaume Farel. Vous avez entendu parler des éditions Farel, hein, des éditions protestantes Farel. Lui aussi, c'est un Français. Il est né à Gap, dans le Dauphiné. Et lui encore, il va faire un grand développement de la réforme. Et il va aller jusqu'à Genève. Et c'est grâce à Farel que Genève, hein, quand on est suisse, va donc connaître le protestantisme. C'est très important pour la suite. Genève, la Suisse, va devenir une région protestante. Protestante grâce à Farel, et puis ensuite on verra aussi à quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, donc ce sont des gens qui préparent. Il y a un début qui se forme pour qu'on revienne à la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu à l'époque n'existe qu'en latin. Ce n'est que Vatican II, c'est pas très vieux, qui va autoriser à ce qu'on lise la Bible dans une autre langue. Alors que les réformateurs, eux, ils veulent absolument que tout le monde, dans sa langue maternelle, puisse connaître l'Évangile. Troisième chose qui va être très importante, c'est l'imprimerie. L'imprimerie, c'est donc une technologie moderne. On a dit que l'imprimerie était à l'époque aussi importante que Internet aujourd'hui. Ça va révolutionner le monde. Avant, on copiait tout à la main. Et par l'imprimerie, eh bien, on va pouvoir diffuser la Bible, puisque Gutenberg, qui va donc mettre l'imprimerie en place à Mayence en 1456, voilà. Donc, il va vouloir, la première chose qu'il va, imprimer, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc, c'est plus une écriture à la main, mais c'est la Bible. C'est l'écriture par l'imprimerie. Et alors, on sait très bien que lui et les autres, parce qu'il va y avoir la découverte de l'imprimerie, ça va pas être simplement à Mayence, en Allemagne, où j'ai été, mais ça va être toute l'Europe, en tout cas l'Allemagne. Et écoutez bien, on va avoir, juste avant la réforme, 70 000 Bibles d'imprimées et plus de 100 000 Nouveaux Testaments. C'est-à-dire que si la réforme a pu se propager, c'est aussi grâce au moment où Dieu l'a voulu. Vous voyez, toutes ces choses concourent en même temps, au bien de ceux qui aiment Dieu d'ailleurs, toutes choses concourent à ce niveau-là pour que la réforme puisse avoir lieu. Et ces nouvelles Bibles, ces nouveaux testaments étaient bien sûr nécessaires pour que l'Europe puisse connaître le plus grand réveil spirituel de toute son histoire. L'imprimerie, a dit Luther, c'est l'ultime don de Dieu et le plus grand. C'est en effet par son moyen, Dieu veut faire connaître la cause de la vraie religion à toute la terre, jusqu'aux extrémités du monde, et la diffuser dans toutes les langues. Voilà. Donc on voit très bien que Luther sait très bien comment Dieu a donné l'imprimerie au moment top, si je puis dire. Et Victor Hugo dit, avant l'imprimerie, ce n'est pas une imprimerie donc, la réforme n'eût été qu'un schisme, l'imprimerie l'a faite révolution. Gutenberg est le précurseur de Luther. Vous voyez comment Dieu agit. Et moi qui aime justement l'histoire de la Bible au travers de toutes ces choses, j'avais donné un message ici même, je me rappelle, sur comment Dieu a gardé sa Bible, a gardé sa parole dans les siècles, ça c'est fantastique. Quand Dieu agit, toute chose se met en place. Et d'un seul coup, ça part. Et là on voit très bien ça. Donc déjà on voit la grâce de Dieu au travers de cela. Alors il va y avoir, quatrième et dernier point, des pré-réformateurs. Luther n'est pas le premier. C'est le plus connu, c'est celui dont on fête le 500e anniversaire du début de la réforme cette année, le 31 octobre, exactement, on est un petit peu en avance. Donc, des pré-réformateurs. Le plus important, alors ces pré-réformateurs vont être tous condamnés par l'Église officielle et pratiquement tous mis à mort. Parce que soit tu rentres dans le rang, soit tu es mis à mort. Il n'y a pas deux alternatives possibles. Donc, il va y avoir des pré-réformateurs en France au XIIe siècle. Au XIIe siècle, donc on est trois siècles avant. Pierre Valdo, j'en dirai un mot. En Angleterre, John Wycliffe. Peut-être ça vous dit quelque chose, Wycliffe. Il y a un groupe chrétien qui s'appelle Wycliffe, dont le but c'est de traduire la Bible. Vous savez combien il y a de langues sur Terre ? 6200. Aujourd'hui, la Bible n'est pas encore traduite dans toutes les langues, mais presque. On pense qu'en 2025, on n'en sera pas loin. Dans certains cas, on ne peut même plus traduire parce que c'est trop compliqué, donc on donne des messages par disque, par CD. D'accord ? Jan Hus, en Bohème. Alors j'ai été aussi là-bas parce que je vais partout pour ça. Et puis, bien sûr, ensuite, il y aura Luther. Alors le plus important pour moi, celui qui a. Le plus qu'a fait une chose extraordinaire, c'est Pierre Valdo. Alors Pierre Valdo, c'est un Français de Lyon. C'est un soyeux. Un soyeux, ce sont donc des gens qui fabriquent la soie. Et la soie, quelque chose de très cher, et Pierre Valdo était très riche. Et puis un jour, Pierre Valdo va être mis en face d'une partie de l'évangile qui s'appelle le sermon sur la montagne. Et quand il va lire ce sermon sur la montagne, où il y a de la part du Seigneur Jésus, vous connaissez ces passages qu'on appelle aussi les béatitudes, heureux et ceux qui s'occupent des autres. Donc Pierre Valdo va tout vendre pour pouvoir annoncer l'évangile. Beaucoup vont le suivre de la région de Lyon, mais aussi de toute région là. Et puis son travail va aller en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, donc toute l'Europe de l'Est, va être, j'allais dire, contaminé, mais c'est une bonne contamination cette fois, par les idées de Pierre Valdo. Bien entendu, là encore, c'est un radicalisme évangélique, il n'y a pas de problème, mais il va être tout de suite arrêté par l'Église de l'époque. Ils vont être persécutés. Voilà un exemple de ce qu'on pensait d'eux. Alors voilà encore Pierre Valdo, je crois. Voilà, c'est un statut. Et donc, ça va être un ministère itinérant. Ils ne vont pas fonder d'église. Ils vont avoir un ministère itinérant, donc des colporteurs. Ils vont donc annoncer l'évangile partout autour d'eux. Ça va être leur ministère. Mais déjà, on sent un travail qui se fait et il y a une communication de l'évangile par ces gens-là. Alors les pauvres, donc, ils vont être persécutés par la Sainte Inquisition catholique. Donc, les femmes sont considérées comme des sorcières, vous voyez, c'est sympathique. Donc, si elles étaient prises, brûlées vives. Et les hommes, ben, ils vont être persécutés jusqu'à ce qu'ils renient leur foi. Mais ces gens-là, mes amis, n'ont pas renié leur foi. Et c'est un exemple pour nous. Jusqu'où on aura été ? Jusqu'où j'aurais été. Donc ils vont continuer, il va y avoir des massacres, dont un très important dans le Luberon. Et aujourd'hui, il y a encore des églises vaudoises en Italie, et même jusqu'en Uruguay. Bon, c'est sûr que c'est peut-être plus la même vision qu'au départ, malheureusement, mais il y a quand même un travail qui s'est fait, un travail extraordinaire, par ces gens-là. Voilà, donc je passe rapidement. Il va y avoir à Champforence, en Italie, à côté de, vous voyez, la frontière italienne, là, la frontière française, donc ils vont aller surtout dans cette région-là, le Dauphiné et le Piémont, et à Champforence, les descendants des Vaudois vont rencontrer Olivetan. Olivetan, c'est le cousin de Calvin, et ils vont se mettre d'accord pour traduire pour la première fois la Bible en français à partir des documents, non pas latins, la Vulgate, mais à partir des documents d'origine, grec et hébreu. Il va avoir 500 écus d'or pour traduire et pour diffuser la Bible. Olivetan, donc celui qui va le traduire, j'ai une pensée pour lui quand je parle de ça, parce que il va devoir traduire le tétragramme sacré YHVH. YHVH, qui est donc le nom sacré de Dieu. Je pense que vous connaissez ça. Ce nom est imprononçable. Non pas parce que c'est que des consonnes, auxquelles il faut mettre des voyelles pour pouvoir le lire, mais aussi parce que pour le peuple juif, ce mot qui symbolise la personne de Dieu, eh bien, on ne le lit pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir qu'ils traduisent. Si je traduis mot à mot, en hébreu, c'est « aïe » et « cher aïe », c'est-à-dire « je suis celui qui suit ». Donc, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour traduire ça. Alors, dire « je suis celui qui suit » a dit que... Et donc, il faut trouver un mot. Qu'est-ce qu'il va trouver comme mot? Ben, celui que vous avez dans vos Bibles, c'est quoi? Quel est le nom de Dieu dans vos Bibles? L'Éternel. C'est merveilleux, parce que ça vient du Seigneur. Parce que c'est exactement la personne de Dieu. L'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est éternel. Pensez, quand vous lirez vos Bibles, à cet homme, Olivetan, parce qu'il va être empoisonné. Parce qu'il a eu le malheur, pour l'Église en place, de vouloir traduire la Bible en français. Voilà. Donc, quand vous lirez ce mot dans votre Bible, l'Éternel, vous penserez donc à Olivetan, cet homme qui, au péril de sa vie, a traduit la Bible en français. Et les premières Bibles françaises sont celles d'Olivetan. Il y a eu des révisions, parce que le français change hein, au fur et à mesure. Et second, je crois, s'est inspiré de cette Bible d'Olivetan pour pouvoir continuer donc à ce que nous puissions avoir la Bible. Olivetan, l'Éternel. Quand vous lirez, pensez à cet homme. Donc voilà. C'est à Champforence, en Italie, qu'a eu lieu donc ce synode, hein, cette retrouvée en 1532. Ça va? Bon, j'espère. Alors, les piliers de la foi protestante, c'est quoi par rapport à ce que enseigne l'Église de l'époque? Sola fide, la foi seule. C'est par la foi que nous pouvons avoir le salut. De l'autre côté, si je puis dire, de la part de Dieu, c'est la grâce. Seul. Le salut, c'est la rencontre entre la foi d'un côté et la grâce de l'autre. La grâce seule. Autrement dit, pensez par rapport à ceux qui voulaient prendre le salut par les indulgences, la grâce seule, c'était pas très bien vu. L'écriture seule, sola scriptura, nous n'avons rien d'autre que la Bible, et seulement la Bible, et toute la Bible. Et on n'a pas, nous, des choses rajoutées par un tel ou par un tel, qu'on appelle donc d'une manière générale, la tradition. Hein, vous savez que dans l'Église catholique, on enseigne énormément de choses qui ne sont pas bibliques, mais qui ont été rajoutées. Et on connaît l'histoire de ces rajouts. Et les derniers rajouts ne sont pas vieux. Le dernier rajout, c'est de dire que Marie est co-rédemptrice. C'est-à-dire que vous pouvez être sauvé aussi bien par Jésus-Christ que par Marie. Quelle folie. Mais comme quoi, l'œcuménisme, c'est un piège. Parce qu'il ne bouge pas. Au contraire. Et nous sommes, pour eux, les frères, comment ils disent, séparés ou... Alors donc, voilà. Il faut faire très attention de combattre pour ce que nous avons ici. Ensuite, deux autres, Solideo Gloria, à Dieu seul la gloire, et pas aux hommes, pape ou évêque ou je sais pas quoi, ou pasteur, ou responsable spirituel de grand renom, à Dieu seul la gloire, et Ecclesia sans performanda, c'est-à-dire que l'Église doit continuellement se réformer. La réforme a été quelque chose de merveilleux, mais très incomplète, très incomplète. On a été très loin, mais pas assez loin. Par exemple, l'Église luthérienne baptise les bébés. Concernant la Sainte-Seine que vous prenez ici, eh bien, Luther, c'est pas clair. C'est à la fois le corps de Christ, comme chez les catholiques, mais pas complètement. Alors, l'Église doit toujours se réformer. L'église d'Argenteuil doit toujours se réformer. L'église de Nanterre doit toujours se réformer. On n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et c'est là que nous avons une responsabilité de dire, Seigneur, montre-nous, dans la paix, hein, on n'est pas là pour se taper dessus, hein, montre-nous ce que nous avons à changer. Est-ce que vraiment il y a des choses qui ne te plaisent pas? Dis-nous, Seigneur. Et j'aime beaucoup ça parce que SDG, Bach, Jean-Sébastien Bach, vous connaissez ? Et Georges Frédéric Heindel, qui étaient donc des protestants de l'époque, hein, bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui, hein, signaient toutes leurs compositions en mettant SDG. C'est-à-dire que tout ce que Bach a pu écrire, c'était pour la gloire de Dieu. Et des fois, je me dis, ils avaient compris, il est dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans votre travail, c'était leur travail, hein, c'est des compositeurs. Dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille, faites toujours tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un principe que Bach, et pourtant un Bach, c'est pas rien. Hein, je sais pas si vous aimez, mais moi, je trouve ça merveilleux. Donc, voilà les bases de la foi protestante. Et puis, vous avez une petite affiche qu'on peut voir au musée du désert, où d'un côté, vous avez les réformateurs, là, vous avez Calvin, on le reconnaît un peu, enfin, de ce que j'ai vu comme graphique. Là, je pense que c'est Luther. De l'autre côté, vous avez l'Église catholique, avec, vous voyez, on met tout, hein, alors les clés de Saint-Pierre, le pape et tout, et puis même il y a un petit diable, enfin ça, c'est pas très sympa. Et puis là, vous avez la Bible. D'un côté, toutes ces choses que le monde catholique a amenées, et de l'autre côté, la Bible. Ça, c'était la force des protestants, la Bible. Super, hein, ça date de l'époque, ça, hein, vous voyez que... Alors, maintenant, on va voir les grandes dates de l'histoire de la réforme en France. Alors, voilà les trois grandes dates, trois grandes périodes, des origines 1598, alors 1598, c'est passé les choses, bien sûr, 1598 à 1685, là aussi, c'est passé des choses terribles, par contre, et puis 1685 à 1789. Alors, la première partie... C'est exceptionnel. Non, je plaisante. Non, avec plaisir. Parce qu'on va les revoir, ces trois. Alors, origine 1598, 1685, et donc la dernière partie jusqu'à la Révolution française. Ça va ? Alors, première partie. Donc, les origines. Bon, les origines, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Donc, on peut faire commencer la réforme en 1517, donc il y a 5 siècles, lorsque Luther, qui est un moine catholique, va donc placarder sur l'église où il est, sur la porte de Wittenberg en Allemagne, les fameuses 95 thèses, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans l'église catholique. Alors je les ai lus en français, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui va bien pour lui. Et en particulier, ce qui est terrible pour lui, c'est les indulgences, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui, c'est quelque chose qui pour lui est inconcevable. Bon, la conversion de Luther, c'est un moine qui voulait plaire à Dieu. Et on lui avait appris que pour plaire à Dieu, il fallait faire pénitence. Donc, mettre un habit qui te fait mal, donner des coups, faire des pèlerinages à genoux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans l'Épître aux Romains, il va découvrir, enfin, je raconte en deux mots, hein, il va découvrir que le salut, c'est par la foi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va complètement changer concernant donc la vision du salut. Et donc il va lui traduire la Bible en allemand. C'est un allemand. Traduire en allemand, donc on peut dire que c'est avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc Olivetan, les deux premiers traducteurs en Europe de l'Ouest. Voilà donc. Alors il va y avoir contre lui, bien entendu, le pape va se mettre dans une colère noire, et donc il va mettre ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire une excommunication. Il va être excommunié par l'Église catholique, il va rassembler tous ses amis, il va prendre la feuille d'excommunication, poubelle. Donc ça veut dire qu'il se dégage complètement. Et voilà. Alors heureusement pour lui, en Allemagne, les autorités civiles, les rois, les princes sont de son côté. C'est pour ça qu'il n'aura pas de problème. C'est un des seuls réformateurs qui va terminer vivant. Les autres, malheureusement, ils vont être persécutés et mourir. Alors, on va avoir donc Luther, mais il va y avoir aussi Zwingli, qui lui, c'est un Suisse. Mais on a vu Farel, enfin ça c'était avant. Hein. Donc il y a plein d'hommes, de femmes qui vont, aussi des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui vont intervenir, qui vont vouloir amener la réforme, et la réforme peu à peu va pénétrer aussi en France. Et celui qui va mettre tout au point, si je puis dire, c'est un Français de Noyon en France, un Jean Calvin, qui va donc écrire d'une manière plus précise, en allant un petit peu plus loin dans la réforme, dans un livre qui s'appelle L'institution de la religion chrétienne, en 1536, la base d'une réforme un peu plus forte, plus précise, je dirais, que Luther et les autres. Voilà. Donc, lui, il habite Paris, à un moment. J'ai vu l'endroit où il habitait. La maréchaussée va vouloir l'attraper, bien sûr. Enfin, donc, pour le tuer. Il va se sauver et il va aller à Genève. À Genève, en Suisse. C'est-à-dire, la Suisse a été pays d'accueil pour les réformateurs. Et à ce moment-là, la réforme va prendre de plus en plus d'importance en France, et on croit qu'il va y avoir entre 15 et 20% de la population française qui va devenir protestante. Donc c'est très important. La croissance du monde protestant est énorme. Les gens, on a vu tout à l'heure, ont tellement besoin de vérité que la réforme se... comme une traînée de poudre, quand on dit, comme une traînée de poudre, un peu partout en France. Un peu partout en France. Donc voilà, Jean Calvin, hein, cette institution de la religion. Et vous voyez, c'est en latin. On a encore, tout s'écrit encore en latin, avant qu'il y ait les traductions dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pendant un moment, ça va, et puis malheureusement, en une quarantaine d'années, d'édit en édit, les libertés de culte ainsi que les droits civils des protestants s'amoindrissent peu à peu. Puis les premières persécutions vont arriver avec le premier massacre, le massacre de Vassy. Donc, l'État de l'époque va quand même vouloir un peu arrêter les choses et donner aux protestants des villes de refuge. La Rochelle, Cognac, Montauban et la Charité-sur-Loire. Autrement dit, ça fait penser un peu aux villes de refuge à l'époque des juges. Vous vous rappelez, hein ? Donc là, ils ont le droit. À Vassy, il y a donc une église, enfin un temple, pardon, excusez-moi, qui va donc être fait. Et il va y avoir un problème parce que les temples devaient être construits à l'extérieur des villes. Et là, c'est limite. Comme on cherche tous les arguments pour pouvoir arrêter la réforme, il va donc y avoir ce fameux massacre de Vassy en 1562, et il va y avoir une cinquantaine de morts, des hommes, des femmes et des enfants, et on pense que ça va être vraiment le début des grandes persécutions que les protestants vont connaître. Bien entendu, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais à Orange, dans le Vaucluse. Il y avait donc là aussi, comme dans toutes ces villes, des temples protestants. Voilà ce que vous pouvez lire à Orange, dans la ville d'Orange même. En novembre 1566, les protestants d'Orange obtiennent du gouverneur l'autorisation d'édifier un temple, quartier Saint-Martin, achevé l'année suivante. Pendant les guerres de religion, ce sanctuaire est le théâtre d'une tuerie de 11 jours, dénommée Notre-Dame la Massacreuse. De temps en temps, on a un peu la vérité. Notre-Dame, la massacreuse. Et à partir du 2 février 1500, jour de la fête de la purification, 140 huguenots orangeois sont assassinés. Et un peu plus tard, le temple sera détruit. Là, j'étais étonné. Bon, Orange, c'est déjà dans le Vaucluse, on est proche des régions très protestantes. Mais ça, je peux vous dire que c'est pareil dans plein de villes de France, où les temples qui vont être construits vont être détruits. La France va être couverte de temples protestants. Hein. Toutes vont être détruites. Je ne sais pas si à Argenteuil, il n'y a pas eu quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire protestante d'Argenteuil. Je m'intéresse un peu à différentes villes comme ça, mais je suis certain qu'il y a eu des protestants à Argenteuil, c'est évident. Mais avant, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle de l'époque. Hein. Et puis le massacre des massacres, ben, vous avez tous entendu parler, c'est le 24 août 1512, le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est la seule chose que l'on connaît dans l'histoire de France, hein, mais en réalité, c'est comme la partie visible de l'iceberg, hein, comme on dit. Hein. En réalité, tout le reste n'est pas visible. Donc là, il va y avoir à peu près... Alors, c'est lors d'un mariage... les protestants sont présents, donc ça va se passer à la tour carrée du Louvre.
La cour carrée
du Louvre. Les protestants sont là, donc Marie de Médicis va dire, puisqu'ils sont là, on va les tuer. Et donc 4000 protestants vont être mis à mort. 4000. Et à peu près, dans la France, on hésite entre 20 000 et même plus. 20 000 morts. Donc là, ça va être un massacre. Alors, quand on parle de guerre de religion, je ne suis pas trop d'accord. C'est plutôt des massacres de religion. Et donc, on va avoir un grand nombre de protestants qui vont mourir par toute la France. Et là, on peut dire que le courant protestant est vraiment amoindri. C'est vraiment une date terrible, 1572, parce que beaucoup vont périr. Et on va voir après qu'on va les forcer à se convertir par des méthodes immondes. Et donc, le courant protestant va vraiment, vraiment faiblir après ce massacre. La Seine, c'était une rivière de sang. Tous les cadavres étaient jetés dans la Seine. On n'allait pas s'occuper des enterrés. Surtout pas, ils n'avaient pas le droit d'être enterrés dans les cimetières, qui étaient considérés par les catholiques comme une terre sacrée. D'ailleurs, dans le Midi, quand on a des champs, etc., des familles ont enterré leurs morts. Et ils ont mis un if. Et c'est quand vous voyez ces arbres tout seuls, comme ça, en pleine nature, c'est surtout que c'était une tombe de protestants, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être enterrés en terre catholique. Donc, vous voyez, ça va être terrible. La France est abreuvée par le sang des chrétiens. Rappelez-vous, la France est abreuvée par le sang des chrétiens. Et je dis qu'à cause de ça, il y a une malédiction sur notre pays. Si les Français sont aujourd'hui, de toute l'Europe, le pays le plus athée, enfin le deuxième, le premier je crois que c'est l'Albanie, l'un des pays les plus athées de France, d'Europe, je pense que c'est... Je vois bien, quand on parle avec des gens dans la rue, la Bible. Alors que bon, prouvez-moi que c'est faux. Hein. J'attends vos arguments. Hein. Donc, ce massacre va donc être le début l'amoindrissement, je peux dire, du protestantisme. La deuxième époque, 1598 à 1685, c'est l'édit de Nantes. Alors, l'édit de Nantes va être promulgué par Henri IV. Henri IV, c'est un protestant. Il est béarnais, de Pau. Il est protestant comme toute cette région très très protestante de tout le sud, est, ouest, vraiment protestante. Il peut devenir roi, il va devenir roi, à la condition qu'il abjure le protestantisme pour devenir catholique. C'est ce qui va se passer. Le roi ne pouvait pas être un protestant, donc il devient catholique, mais d'origine protestante, il a pour les protestants... un certain respect, je dirais, au moins un certain respect. Et donc, il va faire un compromis qu'on appelle l'édit de pacification et de tolérance, qu'on appelle l'édit de Nantes. Donc, les protestants vont avoir une certaine liberté de conscience et l'égalité civile. Parce qu'avant, ils n'étaient même plus civilement considérés. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé avec les juifs en France. l'histoire se répète. On retrouve les mêmes choses. À un moment, les Juifs n'avaient plus le droit d'être français. On a retiré même cette possibilité d'être français, certains métiers, enfin vous connaissez l'histoire. Donc, l'édit de Nantes entérine la dominance catholique, limite le culte protestant, mais quand même, ça va arrêter les persécutions violentes qui existent à ce moment-là. Il va donc y avoir une amnistie même de la guerre civile. Mais là encore, les restrictions vont commencer. Par exemple, signé par Colbert, le roi, qui se dit roi de la grâce de Dieu, aussi l'emploi de la grâce de Dieu, va donc commencer à exclure ceux de la religion prétendue réformée d'exercer les offices de notaire, procureur, huissier et sergent. Autrement dit, un peu comme les juifs, hein, on commence à retirer aux protestants certaines possibilités de travail, etc. D'accord ? Et là, la religion prétendue réformée, c'est la manière dont les catholiques appellent les protestants. La religion prétendue réformée. Oui, dans ces mots, il y a une sorte de mépris, tu as raison, de mépris. Voilà, mépris. Donc déjà, on commence à avoir moins de possibilités pour les protestants. Et puis, malheureusement, plus tard, sous l'influence de la marquise de Maintenon, décidément, Marie de Médicis, toutes ces femmes n'ont pas fait des choses très positives, où j'en suis là. Voilà. L'édit de Fontainebleau, 1685, alors là, c'est vraiment terrible. 495, excusez-moi. 1695, ça va donc être l'édit, la révocation de l'édit de Nantes. Alors, l'édit de Nantes, c'était un petit peu mieux. Là, ça va être terrible. Là, on peut dire que cet édit de Fontainebleau va carrément empêcher les protestants d'avoir le droit d'exister. On va commencer à les persécuter, les protestants vont abjurer en masse ou le faire croire, et donc on va commencer à abattre tous les temples et fermer les églises, les écoles protestantes, parce qu'il y avait énormément d'écoles protestantes à ce moment-là où les parents mettaient leurs enfants. Donc Louis XIV, roi épouvantable, va tirer prétexte pour révoquer l'édit de Nantes, qui pourtant, selon Henri IV, était irrévocable. Ça, c'est un moment terrible dans l'histoire du protestantisme, de cet édit de Fontainebleau, qui va donc interdire tout exercice de la religion protestante. Les protestants n'ont pas le droit d'émigrer, parce qu'on va voir que beaucoup vont dire que ce n'est pas la peine de rester en France. Hein. Et eux, les pasteurs, sont bannis. Donc, vraiment, ils sont mis en prison. Enfin, c'est terrible. L'édit de Fontainebleau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet édit? Je vais passer rapidement parce que... Voilà, les 12 articles. Révocation de l'édit de Nantes. Démolition de tous les temples. Ouais. De tous les temples. Ensuite, interdiction de tout exercice de la RPR, y compris chez les seigneurs. Pourquoi les seigneurs? Parce que la Bible, pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle soit lue. Qui pouvait lire à l'époque? Que les gens qui avaient une certaine instruction. Et les gens qui avaient une certaine instruction, c'était les seigneurs. Mais les seigneurs récupéraient les gens autour d'eux, les gens qui travaillaient, les cordonniers, les bouchers, je ne sais pas quoi, boulangers et autres, les agriculteurs surtout, et donc leur lisaient la Bible. Donc les seigneuries étaient des temples, quelque part. On enseignait la Bible. Et donc, eux aussi, ils vont être interdits de pouvoir vivre leur vie chrétienne. Les pasteurs devaient partir dans un délai de 15 jours. Sinon, c'était les galères. Et j'en parlerai tout à l'heure. Vous voyez, un petit peu, ils tapaient à la tête. Hein. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos pasteurs. Parce que quand il y a des persécutions, c'est les premiers à être atteints par la persécution. Ensuite, on va essayer pour les reconvertir dans les métiers juridiques, hein, on va leur donner une pension, etc., etc. Enfin, ouais. Interdiction des écoles protestantes, je vous l'ai dit. L'obligation de faire baptiser, de faire instruire leurs enfants dans la religion catholique, parce que le baptême protestant, premier baptême protestant a eu lieu à Paris. Est considéré comme nul, parce qu'il n'a pas été fait par le monde catholique. Les mariages entre protestants sont considérés comme nuls. On considère qu'ils sont concubins. Et les enfants, des bâtards. Ah oui, ils sont pas mariés. Vous voyez un petit peu ce qu'ils ont souffert, mais c'est, je vous dis, c'est épouvantable. Et puis enfin, je crois qu'on va bientôt arriver, confiscation des biens des réformés, déjà partis étrangers, sauf s'ils reviennent, dans un délai de 4 mois, je peux vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Hein, parce qu'ils savaient ce qui leur arriverait s'ils revenaient. Interdiction réformée d'émigrer à l'étranger, sous peine de galère et de prison pour les femmes. On va voir tout à l'heure ce que c'était que la prison. Bon, parce qu'ils vont s'apercevoir que tout le monde commence à partir. Hein. Punition des relapses, c'est-à-dire ceux qui sont revenus au catholicisme et qui, en réalité, ne sont pas revenus, qu'un fusil sur la tempe, vous avez vite fait de renier, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et enfin, ceux qui sont protestants et qui ne seraient pas encore convertis peuvent résider en France à condition d'exercer les dispositions précédentes. On m'a dit, ils n'ont plus le droit de rien faire. Alors, c'est comme si... voilà. Bon. Les temples vont donc être détruits. Charenton, vous connaissez, cette ville en lieu est de Paris. Donc Louis XIV va décider de détruire les temples, on l'a vu tout à l'heure, et puis les pasteurs sont donc persécutés, et là on a le symbole de la prison, de la galère, hein, et puis ça c'est là, j'en parlerai tout à l'heure, de cette croix protestante. C'est la période la plus sombre du protestantisme français, le culte est interdit, les temples sont rasés, les pasteurs sont emprisonnés ou exécutés. Ils ont souffert, hein. Et c'est pas il y a 2000, non, c'est il y a 5 siècles, même pas.
Ouais.
C'est pas hier non plus, mais enfin bon. Alors, l'État va envoyer, avec l'aide du monde catholique, des dragons, et je trouve qu'ils portent bien leur nom. Ce sont des missionnaires, entre guillemets, qui vous font abjurer votre foi protestante, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fusil sur la tempe. Donc, vous avez là, la force passe la raison, qui peut résister bien fort, raison invincible, etc., etc. Donc, par l'ordre du roi Louis le Grand, donc, voilà, il faut ramener les hérétiques à la foi catholique, par tous les moyens, par tous les moyens. Ce dessin est un dessin original de 1686. Alors ensuite, les protestants vont continuer à émigrer ou à abjurer, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà un exemple, hein, une lithographie qui date de 1686, donc c'est de l'époque. Hein. Vous avez les moyens sûrs, c'est marqué, hein, moyens sûrs et honnêtes pour ramener les hérétiques à la foi catholique. Alors là, croyez-moi qu'ils sont sûrs. Honnêtes, je ne sais pas. Vous avez la roue, j'en parlerai plus tard, la prison, qui est un lieu de conversion, c'est clair, le fouet, la potence, les galères et le feu. Voilà. Alors certains vont abjurer, semble-t-il, mais on sait très bien que vous ne pouvez rien faire, sinon que d'accepter, entre guillemets. 1786, ce dessin. Et puis, peu à peu, les idées, le temps des Lumières, vous savez, Voltaire et Rousseau. Rousseau, c'est un anticlérical. Voltaire, pareil. Faut pas croire qu'ils ne... Enfin, ils avaient une vision de Dieu, ces gens-là, mais tellement opposés au cléricalisme de l'époque qu'on peut croire qu'ils étaient vraiment complètement athées. C'est pas vrai. Voltaire, par exemple, qu'on cite souvent, disait, en parlant de l'univers, une phrase que je trouve très belle, « L'univers m'embarrasse. Je ne peux considérer une telle horloge sans qu'il y ait un horloger. » Oui. Et puis Rousseau, pareil, hein, ils étaient... Bon. Alors, peu à peu, ces gens-là vont amener en France des choses très négatives. Hein. Le rejet du cléricalisme, et, vous savez ce qu'on dit, on jette l'enfant avec l'eau du bain, hein. Donc les évangiles, tout ça. Et puis, peu à peu, on va avoir quand même, hein, Louis, par la grâce de Dieu, j'aime beaucoup quand il dit ça, on va avoir l'édit de tolérance. L'édit de tolérance. De novembre 1787, donc on a 2 ans de la Révolution, où on va autoriser la possibilité pour les protestants de se réunir et avoir un état civil digne de ce nom. Donc, l'un des... Rabault-Saint-Étienne, c'est le fils d'un pasteur qui va intervenir au niveau de l'État d'une manière très importante, puisqu'il est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Donc, il dit « La reconnaissance n'exclut point l'espérance, elle l'autorise. » Donc, en 1787, l'édit de tolérance rend aux réformés un statut civil, mais sans la liberté de culte et sans accès aux charges, quand même. Donc, c'est vraiment « on vous tolère, on vous tolère. » Voilà. L'édit de tolérance. Alors, donc, un personnage très important, Jean-Paul Rabault-Saint-Étienne, fils du pasteur Paul Rabault, qui était un pasteur du désert, on en parlera en deuxième partie, va intervenir et il va être député du tiers-état et il va être le premier président de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, comme le nom l'indique, c'est celle qui a fait la Constitution. Donc c'est un pasteur protestant qui va intervenir pour... La déclaration des droits de l'homme. Voilà. Rabault-Saint-Étienne. Vous savez, c'est pas tellement connu, mais c'est très important parce que, je vous ai dit, il va intervenir pour la déclaration des droits de l'homme. Vous connaissez certainement, hein, et l'article 10 en particulier, qui nous concerne, puisqu'il est dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Mais la Révolution, qui proclame certains principes, se révèle incapable de les appliquer. Incapable de les appliquer. Donc ça, c'est de 1789, hein, la déclaration. Donc, nous pouvons être fiers, quelque part, qu'un protestant ait eu ce rôle si important pour notre pays. Voilà. Donc, la Déclaration des droits de l'homme. Quelqu'un a dit, la Déclaration des droits de l'homme présente très exactement l'image inversée du traitement que les protestants avaient subi. On voit très bien que cette déclaration contient des textes qui, comme les protestants avaient souffert de pas mal de choses, ils sont intervenus pour qu'on puisse ne plus arriver. Voilà. Voilà. C'était vraiment ça leur désir. J'arrête.